Bienvenue dans l'émission Au cœur du livre par la médiathèque intercommunale Olympe de Gouges à Saint-Hippolyte-du-Fort. Nous recevons aujourd'hui Brigitte Mathieu-Jaffuel.
Je serais bien partie faire le tour du monde avec toi. Dévorer les continents, balayer les frontières. Parcourir les états de grâce de la planète entière. Découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre.
Les bibliothèques en Piémont-Sévenol, c'est un réseau de 18 bibliothèques, dont une médiathèque intercommunale à Saint-Hippolyte-du-Fort. Sur ce réseau, nous avons des professionnels, des bénévoles qui animent et gèrent ensemble tout ce qu'il y a de nécessaire pour que les bibliothèques vous accueillent. L'acquisition des documents, les rencontres, les débats, les expos. Toutes ces bibliothèques ont un fonds répertorié dans un catalogue informatique commun. Il y a une navette qui permet d'emprunter des documents dans n'importe quelle bibliothèque du Piémont et les rendre dans la bibliothèque de son choix. L'inscription et le prêt sont gratuits, sans condition, que l'on soit ou non habitant du Piémont-Sévenol. Depuis 10 ans, le prix littéraire Le Livre au cœur permet de sélectionner le coup de cœur des bibliothèques du réseau. Chaque bibliothèque qui souhaite participer propose son coup de cœur. Les membres du jury le lisent et votent. Pour faire partie du jury, rien de plus simple, il suffit d'être bénévole, adhérent ou professionnel du réseau. Stéphanie Laurent, vice-présidente en charge de la culture, suit et accompagne ce prix chaque année. Lors de la précédente édition, Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infante avait été lauréat. Nous y avions d'ailleurs consacré une émission sur Radio Escapade que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de la radio. À bâton planté de Brigitte Mathieu-Jaffuel était notre coup de cœur finaliste et les départager a été particulièrement délicat, tant nous étions sous le charme de ce récit également. Ce livre, atypique et vraiment très attachant, a également été sélectionné au prix du Cabri d'Or. Et dans cet ouvrage, nous y suivons une petite fille de la ville, Noni, qui va très vite acquérir la certitude qu'elle sera bergère quand elle sera grande. Mais pour y parvenir, il lui faudra de la combativité, de la persévérance, pour pouvoir accomplir son rêve. Pendant 30 années, l'autrice, Brigitte Mathieu-Jaffuel, Noni donc, va vivre au rythme de la nature et des transformations sociétales. C'est tout un pan de l'agriculture dans les Cévennes de la fin du siècle dernier qui change, se transforme, sous nos yeux, à travers la voix de Brigitte Mathieu-Jaffuel. Les conditions de vie difficiles, voire franchement austères, le climat parfois extrême, les difficultés à faire revivre des terres oubliées, à reconstruire un mas abandonné, n'entameront pas la légèreté, l'optimisme et l'émerveillement de Brigitte Mathieu-Jaffuel. C'est un récit qui est très poétique, à deux niveaux de lecture, d'une part une narration, et d'autre part des échappées poétiques où nous partons garder le troupeau. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus créatif ? Et tout d'abord, bonjour.
Bonjour à tous.
Oui.
Alors, j'avais déjà écrit un petit récit il y a une trentaine d'années. J'ai pas de méthode particulière. Mais là, comment dire ? J'avais décidé... De produire un cahier, un simple cahier, pour mes enfants, petits-enfants.
D'accord.
Pour qu'ils sachent d'où venait toute cette forêt autour d'eux, ces maisons restaurées, etc. Je me disais, c'est dommage, ça va peut-être se perdre. Et puis, je me suis prise au jeu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas seulement ma vie que j'ai envie de raconter, c'est la vie de plein d'amis qui ont vécu, qui ont aussi restauré des ruines, aussi défriché des terres, qui ont aussi eu les mêmes difficultés. Et je me suis un peu posée comme un témoin de cette époque. Donc finalement, je n'ai pas trouvé énormément d'écrits, qui sont donc les 30 années qui ont suivi les années 70, jusqu'à peu près 2000-2004, avec tout ce que ça comporte de difficultés, d'adversités, de nécessaire persévérance, comme vous l'avez dit. Voilà, alors ça n'est pas qu'un livre sur mon métier de bergère, c'est aussi, voilà, en arrière-plan, cette mutation de population. C'est la pauvreté, c'est l'amour, c'est, voilà, il y a beaucoup de choses. La place aussi de la femme dans cette époque-là, chez les paysans, voilà, donc il y a beaucoup de facettes possibles et d'entrées potentielles dans ce récit.
On voit les Cévennes évoluer, effectivement.
Oui, tout à fait.
On voit les Cévennes se transformer.
Ensuite, comment je m'y suis prise très simplement, hein, parce que c'était facile, puisque c'est ma vie. Donc, je n'ai pas eu d'enquête à mener.
J'entends, mais parfois, c'est le plus dur d'écrire sur l'intime. C'est quand même...
En fait, j'ai tout bêtement fait toute une liste de tous les souvenirs qui me venaient. Alors, j'ai la chance d'avoir une mémoire autobiographique vraiment très bonne, même si je peux oublier, voilà, un jour de rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et carrément, les dialogues intégralement, etc., chaque mot, voilà, comme si je les avais enregistrés. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite liste comme ça. Puis, chaque petit élément correspondait à une histoire que j'ai rédigée. Alors, ça m'a fait un gros paquet. Après, j'ai trié tout ça. J'ai remis dans l'ordre chronologique du temps, bien sûr. Et puis, après, ça m'a pris 4 mois. Et après, une année de plus pour peaufiner.
D'accord.
Pour peaufiner, revenir.
Là, est-ce que la maison d'édition, dans ce travail-là, où vous avez, ce temps-là où vous avez peaufiné, est-ce que la maison d'édition ou des proches qui vous auraient peut-être aidé dans des relectures, est-ce qu'il y a eu un regard extérieur ou c'est vous qui avez peaufiné
Non, c'est... J'ai fait relire, parce que j'y tenais beaucoup, à une dizaine d'amis, lecteurs, qui aiment lire, mais une fois que j'avais terminé. Et l'éditeur, pareil, je l'ai trouvé seulement une fois que j'ai envoyé mon manuscrit abouti. Donc il n'a pas vu les premiers jets.
D'accord.
Et l'éditeur m'a quand même dit, c'est un peu long. Donc j'ai encore enlevé une bonne centaine de pages.
D'accord.
Pour arriver, voilà, à quelque chose qui est comme ça. Il aurait fallu que j'enlève encore la moitié, j'ai refusé.
Non, et moi je trouve que là, accepté. Ça se lit, on entre dedans et on le quitte.
Non, mais c'était
quand
à prendre ou à laisser, de toute façon. Et il m'a dit, envoyez-moi tel qu'il est le manuscrit, je vais voir. Et il m'a rappelé.
On entre dans votre famille aussi, on s'attache à vos enfants, on a envie de connaître la suite, je trouve, à chaque étape.
Il y a beaucoup de gens qui me disent, il faudrait la version 2, mais je n'ai pas envie trop de rentrer là-dedans. Alors, j'ai un autre projet, oui, mais ce sera partiellement autobiographique, et puis je vais un peu mélanger d'autres personnages.
Parce que vous avez eu deux périodes de vie professionnelle après cette période où vous avez été bergère, donc vous avez travaillé pour le parc.
Alors j'ai fait deux choses. J'ai d'abord, quand je me suis séparée, j'avais vraiment rien. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que j'ai créé une petite entreprise.
Donc, du coup, je précise pour les gens, vous étiez bergère et votre compagnon était l'éleveur.
Oui,
donc,
c'est
du coup, de fait, ce changement de vie vous menait à changer de vie professionnelle.
Complètement,
aussi. Complètement,
oui, voilà. J'avais plus de troupeau. Oui. Et la seule chose que je savais faire, puisque je n'ai pas de diplôme, c'était de parler de mon pays. Parce que depuis déjà pas mal d'années, je guidais des randos, j'étais dans la botanique, dans l'ornitho, etc. Et donc j'ai répondu à un appel d'offres tout simplement sur des topo-guides de randonnée, puis j'ai été choisie. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, où j'ai créé pour le parc national des communautés de communes et le conseil départemental, des itinéraires de randonnée.
D'accord.
Qu'est-ce que vous mettez sur les lames jaunes, combien de kilomètres, etc. La bague verte, etc. Donc ça, c'était mon travail.
Donc toujours.
Donc j'ai beaucoup beaucoup marché.
Voilà. Vous avez continué à beaucoup marcher,
parce
à continuer à vivre en extérieur.
Parce qu'il y a des randonneurs qui ignorent comment on fait pour installer ces poteaux au milieu de nulle part, etc. Ben voilà, il y a des gens comme ça.
Il y a des gens qui s'en occupent.
Et puis ensuite, un poste s'est libéré au parc national. On m'a prévenu, une amie m'a prévenu, elle m'a dit c'est pour toi. J'ai postulé, j'étais pas seule, mais j'ai eu la chance de l'avoir. Et là, j'ai fait encore 6 ans. dont la responsabilité pendant 4 ans de l'écomusée du Mont-Lozère. Voilà. Donc tout ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Joli réseau de spécialistes dans plein de domaines, et puis des paysages et le Mont-Lozère, etc.
Vous avez pu réaliser votre rêve d'enfant que vous décrivez au début, où vous êtes une petite fille citadine dans les années 60, qui est persuadée que sa vie, c'est vivre à l'extérieur, dans les Cévennes, et qu'il va falloir trouver le moyen d'y arriver.
Qu'on n'a pas dit, c'est que ma grand-mère était ici.
Nous,
on venait tout le temps dans la maison de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Et du coup, c'était un peu le ventre, cette maison, parce que par ailleurs, on déménageait tout le temps. Et là, c'était le point d'ancrage, c'était cette maison-là. Et c'était là que je voulais revenir et passer ma vie là. Et c'est ce qui s'est passé, sauf que j'ai sauté une vallée quand j'ai rencontré mon compagnon. Donc, voilà, c'est pas très loin. Ça reste...
Objectif atteint, peut dire.
Oui. Et donc, vous le disiez, il y a deux niveaux de lecture dans ce livre. Mm-hmm. Pour revenir à mon processus d'écriture, je n'ai pas voulu rester exclusivement sur le narratif. J'ai eu peur d'être ennuyeuse. Et du coup, pour rendre la lecture plus vivante, j'ai fait des passages un peu en retrait. Donc, on les reconnaît physiquement de cette manière-là, avec une police un peu plus réduite. Et là, je vous entraîne, chers lecteurs, lectrices, avec moi dans la nature, soit au bord de l'eau, soit dans la forêt, soit sur une crête. Voilà.
Et
soit on a le troupeau, soit on ne l'a pas, mais en tout cas, ce sont des passages plus poétiques.
Où vous décrivez votre émerveillement.
Avec mon émerveillement, qui est quasi permanent.
Oui, heureusement, on sent que vous avez une personnalité comme ça, vous êtes dans l'émerveillement. Ouais.
Voilà, il faudrait que tout le monde ait cette capacité, parce que ça ferait beaucoup de bien.
Sûrement.
L'humanité. Et voilà, donc, c'était un parti pris. Et ça ne correspond pas à... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu écrivais ton journal, tu faisais... Non, ça m'est venu comme ça, tout en écrivant. Et ça n'est pas des extraits de journal d'autrefois ou quoi que ce soit. Voilà.
On peut essayer d'en lire un passage, peut-être, pour
Par exemple,
donner une idée. Alors. Donc, du coup, c'est l'ouvrage « À bâton planté ». Et sur la première de couverture, vous avez « Noni garde », qui est barré en vert, « À bâton planté » sur les pentes Cévenoles, qui est barré également.
Alors, en fait, ça, c'est un parti pris graphique de la maison d'édition. Il fallait qu'il y ait le nom du personnage, son métier, le lieu où ça se passe. J'étais pas d'accord. C'est la seule chose dont on n'était pas d'accord. Moi, je me disais, mais mon titre, c'est « À bâton planté ». Mais alors, bon, il a fallu céder là-dessus. Voilà pourquoi ça interroge un peu cette couverture raturée.
Moi, je trouve que ça donne envie, en fait. Ça intrigue un peu. Et c'est... Bon, on va entrer dans le récit, peut-être.
Ce samedi du printemps 1977, à 11h du matin, je passais discrètement à pied sous la maison de ma mère, me rendant chez une de mes vieilles dames de Lezière. Au moment où je glissais sans bruit sur cette petite route, une jeune femme redescendait le sentier avec Simone. Dès que celle-ci m'aperçut, elle ne put s'empêcher de crier très fort dans ses mains en porte-voix, du haut de son promontoire, toujours le même, l'avancée d'un rocher en surplomb dans le tournant serré du sentier d'accès à son bastion. « Noni, tu devrais discuter avec elle, elle a des chèvres !» Au lieu de la remercier, comme tout un chacun aurait fait, je ne lui répondis pas, gênée de cette exhibition publique. J'arrêtai mon pas et attendis la jeune inconnue. Je respirai un grand coup pour me donner l'audace de l'aborder. Sa deux chevaux Citroën, encore une, était garée au bas du chemin. Lorsque la femme l'atteignit, j'étais debout à côté de sa portière. Elle semblait à peine plus âgée que moi. « Bonjour, me dit-elle en souriant, je suis Colette. »« Bonjour, vous avez un troupeau ?»« Oui, j'ai un troupeau de 40 chèvres. »« 40 ?» J'ignorais alors qu'on puisse en élever autant. « Oui, vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous aider ?»« Non, ça va, je travaille avec mon mari, il a bien du boulot, mais on arrive à tout faire. »« Je peux venir quand même pour garder les bêtes. » Non, nous n'avons besoin de personne. Et surtout, nous n'aurions pas les moyens de te payer. C'est pas grave. Non, vraiment, mais si un jour nous avons besoin d'un coup de main, on t'appelle, d'accord ? D'accord. L'échange s'arrêta là. Debout, au bord de cette route, je l'ai regardé s'en aller dans sa deux chevaux bruyante. Je sus alors exactement ce que j'allais faire ce lundi. Plus jamais je ne ferai le ménage des gens. Plus jamais je n'entendrai les remarques sèches de M. M. à la moindre minute de retard du haut de son perron, les bras croisés. Ah, je commençais à me dire, la bonne ne viendra pas aujourd'hui. Le lundi matin, levé à 5 heures, je suis partie à pied sur la route départementale pour arriver à 7 heures à la ferme de Gourette chez Colette, cette éleveuse de chèvres rencontrée l'avant-veille. La jeune femme était déjà dehors. Elle avançait sur son bout de chemin bordé d'herbes folles lorsqu'elle me vit. Elle s'arrêta, jolie dans sa salopette bleue à bretelles qui lui donnait un air robuste. Cheveux bruns, courts, joues de pomme rose, sourire enfin croissant. Elle ne m'attendait pas, bien sûr. Elle était un peu ébahie et sans doute embarrassée en me voyant là, si j'en croyais le mouvement vertical de ses sourcils et de ses yeux noirs écarquillés. « Tu es venue ?» Un silence suivit qui me parut très long. On se regardait, je ne savais pas quoi dire. Elle non plus. J'étais dans le même état que si j'avais été prise en faute. Je pensais, mais quelle idiote. Pourquoi insistes-tu comme ça alors qu'elle ne voulait pas de toi? Ça se fait pas. Elle me regardait encore. Allait-elle me renvoyer à mes serpillères? Bon, maintenant que tu es là, me dit-elle gentiment, en laissant s'écouler encore quelques longues secondes après cette phrase qui me semblait plutôt prometteuse. Nous étions toujours face à face sur le chemin, de la même petite taille. Je regardais son visage, elle réfléchissait, j'attendais. « Est-ce que tu saurais garder le troupeau ?» Je ne répondis pas tout de suite, mais souris d'abord, sans baisser les yeux, consciente de la soudaine coulée de joie chaude et indéfinissable qui m'a envahissée. Un flot, toute la sève de la lune que je venais de décrocher. Je souriais de toute mon âme en me retenant pour ne pas pousser hors de ma gorge le cri de joie qui me brûlait. Oh Colette, cette petite grappe de mots, est-ce que tu saurais garder le troupeau ? Scintillait comme un personnage sur la glace molle des années que je venais de passer. Toujours est-il que malgré mon incroyable plaisir à entendre cette question, je répondis juste timidement « Oui ».
J'ai 20 ans. Chaque jour, je quitte Saint-Bert à l'aube et prends d'abord la route montagneuse, besace en bandoulière et bâton en main, respirant l'air frais toujours paisible des petits matins du monde. L'odeur de l'aube est encore gorgée de nuit, de rosée. Le temps de mon cheminement, le fond de la vallée se défait de ses voiles d'aurore. Deux villages traversés sommeillent encore. Parfois un chien me dénonce avec conviction, malgré mon application à marcher comme sur du feutre. Fini l'autostop. Je préfère m'éloigner de la route, coupant comme un chevreuil à travers bois connu ou inconnu. Je chemine sous des châtaigneraies feuillées ou défeuillées selon la saison, puis des pinèdes plus arides qui filtrent les rayons de lumière. Je longe un vallon encore blême et bleuâtre, pris dans les vapeurs de la rivière. Des oiseaux matineux volettent bas. Quand le vent est furieux ou la pluie battante, je ne prends pas la route. Les bêtes auront du foin.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire. Devant lui se tient un miroir, son reflet dedans. Noir. Tu Je ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi.
Brigitte Mathieu Jaffuel, vous avez fait ce choix de chanson renversée d'Émilie Loiseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Je l'ai pas souvent entendue, cette chanson. Je l'avais entendue quand elle est sortie, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Et j'avais été vraiment charmée et bouleversée en même temps par ses paroles, par cette mélodie, par cette voix. Et puis aujourd'hui, quand, au regard de l'actualité, je la trouve tellement prémonitoire que vraiment je me suis dit, voilà, ce personnage dans le puits qui dit « Rendez-nous la beauté ».
Oui.
« Rendez-nous la beauté ». Voilà, ça, c'est une petite parcelle de phrases qui m'accroche, qui m'émeut.
Qui vous a touché.
Et c'est vrai que le monde est comme un sablier sur le point de se retourner et qu'on ne sait pas si on va retomber sur nos pieds, comme elle le dit. Et voilà, rendez-nous la beauté. Et on attend.
Oui. La beauté est très présente dans votre récit puisque on part en fait avec vous garder le troupeau. Voilà, on assiste aux naissances dans le troupeau et vous êtes sans cesse extrêmement touché par cette nature changeante, un peu imprévisible. Dans le récit, vous traversez avec votre famille et votre troupeau des orages, un incendie majeur, et pourtant toujours avec le même émerveillement, la force qu'a la nature de repartir après les dégradations.
Disons que la faculté de pouvoir s'émerveiller, c'est comme une nourriture et ça a une tendance heureuse à se mettre toujours au premier plan et remettre à l'arrière-plan donc les orages, toutes ces difficultés, les incendies, tous les problèmes avec les chasseurs, enfin tout ce que je peux, avec les chiens errants, avec toutes ces difficultés qu'on a pu rencontrer. Tout ça est contrebalancé, pas toujours à égalité bien sûr, par la beauté de la nature ou d'une personne, enfin la beauté en général ou d'un tableau. C'est quelque chose qui vraiment moi me nourrit. Qui me nourrira toujours. Et je crois qu'on est nombreux comme ça. Quand ça ne va pas, monter sur une crête de montagne, et regarder le paysage. Je vous assure que ça fait du bien. Ça fait du bien.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui vont être d'accord avec, avec cette, ce conseil-là. Bien
encore
sûr.
Faut-il avoir une montagne
Bah, ça va, nous, on est bien lotis.
Non, la beauté, c'est quelque chose, effectivement, qui ne doit pas disparaître, qui ne disparaîtra jamais, heureusement. Mais il faut avoir une aptitude à saisir ces parcelles de beauté, parce que ce ne sont que des parcelles, oui. Jamais. Voilà, c'est comme le bonheur, c'est que des parcelles. Et il faut avoir la capacité de les saisir au vol, et de les attraper,
les garder pour soi précieusement en mémoire, ou les transmettre aux gens dans un récit, et ça, c'est précieux, vous remercie.
Et j'avais un peu, sans vraiment le formuler, mais quelque part, j'avais envie de faire un livre qui fait du bien, et jamais tomber dans la plainte, ou les choses comme ça, même quand c'est dur, pour encourager les gens aussi... à ne pas se laisser aller, et qu'on arrive toujours à rebondir et à faire une rencontre. Ne serait-ce que d'une
fort,
biche.
D'une biche, il y a des biches qui passent dans votre récit, effectivement. On sent très fort la notion de choix au long de votre récit. Vous avez choisi cette vie-là, et du coup, tout du long, vous en assumez pleinement tous les aspects.
Oui.
Voilà.
Oui.
Vous embrassez le métier. Pleinement.
Oui, tout à fait. Oui.
Je vais lire un petit passage. Donc, c'est la troisième partie, 1977-2004. Et le premier chapitre commence par ces mots. Le bonheur, c'est un matin vert groseille sur tranche de rire avec toi. Quelque chose de très simple en somme. 1976.
Oui, j'ai écrit ça quand j'étais gamine. C'était pour personne à l'époque, mais j'imaginais.
Ça fait combien de temps, 76 ?
J'avais 20 ans.
Et le temps a passé un peu. Je vais lire cet extrait-là, et si vous voulez, vous lirez ce passage ?
Oui, d'accord.
Toutes les Cévennes ont connu un pic de prospérité à l'âge d'or du verre à soie jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, période de son effondrement pour diverses raisons. Les maladies des vers à soie d'abord, puis la concurrence des soies asiatiques dont l'acheminement fut facilité par l'ouverture du canal de Suez. Quelques-unes de ces vallées ont drainé ensuite vers leurs boyaux de charbon une grande partie de la population locale, rejointe par les travailleurs immigrés dans une entente amicale et solidaire, vivant tous les mêmes angoisses à 700 mètres sous terre. Ils ont quitté, peut-être non sans douleur, le grand soleil, leur terre en étage et leur masse éloignée de tout, leurs chèvres qui avaient de longs poils. Ils ont surtout quitté la vétusté, la sécheresse ou les pluies torrentielles, les châtaignes à presque tous les repas, les murs de pierre à remonter sans cesse. Les lèvres tentatrices des vallées noires les ont embrassées pour mieux les attirer dans leurs grosiers de charbon, se confronter à d'autres luttes, mais avec cette lumière si persuasive au bout de la galerie, le salaire mensuel. Cette parenthèse minière à grande échelle dura 120 ans environ et n'a concerné que les vallées orientales des Cévennes au nord de la ville d'Alès. Puis les concessions des houillères de montagne ont fermé une à une. Les mineurs sont partis travailler dans le Tarn ou ailleurs, les plus âgés sont restés. Les années 70 sont encore fraîchement empreintes de ce sinistre déclenché 10 ans avant. Sinistre sociétal, urbain, culturel, paysager, avec pour conséquence une déprise agricole et l'invasion des pentes par les pins maritimes introduits au XIXe siècle pour leur bois servant d'été dans les galeries de charbon. Plus de 100 années d'exploitation de houille dans les basses vallées ont effacé les implantations paysannes ancestrales que l'on retrouve délabrées ici et là, sur toutes les belles hauteurs abandonnées. Leurs décombres sont colonisés par des lierres monumentaux, des figuiers, des sureaux noirs, des ronces. Des ruines sauvées et le troupeau de brebis sont les deux fils rouges de ma nouvelle vie. La naissance des enfants l'animera de 3 cœurs battants. Mon songe compagnon ne m'avait donc jamais quitté, comme un bout de chandelle inextinguible. J'étais toujours restée confiante à l'abri de cet imaginaire d'abord enfantin puis devenu familier, mais ignorante de la somme d'efforts et de savoir-faire que le berger ou la bergère doit déployer, de cette marche incessante, des secousses de l'adversité qui vont et viennent comme la marée. J'ai appris. Avec les hommes bons ou les hommes mauvais, avec les bêtes, avec la pente, avec la mer.
Toutes mes journées se passent dans les rochers usés de soleil, dans les maquis ou au cœur des bois, en compagnie des horizons de vieilles montagnes émoussées, allongées, celles qui ont des hanches ravinées, des épaules rondes, des dos bossus. La beauté lente de la nature, le ciel, la patience géologique des montagnes. Qui faut-il remercier pour les abeilles qui chuchotent à l'oreille des fleurs, pour la désinvolture des clématites sauvages? Personne, la nature n'attend pas de remerciements. Notre considération rationnelle lui suffirait.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour.
L'émission Au cœur du livre par la médiathèque intercommunale Olympe de Gouges à Saint-Hippolyte-du-Fort et nous sommes toujours avec Brigitte Mathieu Jaffuel. Voilà donc cet extrait que nous venons de lire
Il raconte la déprise
dans
les montagnes suite à l'exploitation minière qui s'est arrêtée dans les années 63-64, hein, un peu plus tard, plus près d'Alès, mais chez nous, c'était quand même il y a longtemps. Et ça a donc fait une espèce d'hémorragie de la population, toute active, qui est partie. Beaucoup de ruines. De toute façon, les ruines, elles venaient du fait que les personnes qui étaient paysannes et qui vivaient sur les hauteurs étaient allées s'embaucher en bas, dans les vallées. Et pour ne pas payer d'impôts sur les maisons qui restaient accrochées à la montagne, elles détoitaient, elles enlevaient les toits
Ah oui.
pour que ça soit considéré comme des ruines. Et du coup, donc tous les villages entiers étaient en ruine. Le village où j'habite aujourd'hui, en 70, il n'y avait pas un toit. Aujourd'hui, on est 11 habitants permanents. En face, pareil, 17 habitants permanents. Et le premier toit s'est refait en 1983. Il n'y en avait plus un seul. Les gens détoitaient. Et c'est pour ça qu'il y avait tant de ruines très avancées. Voilà. Et donc, la population, depuis, a été quand même pas mal renouvelée. Il y a encore des anciens, bien entendu. Mais il y a peut-être moins de friction, ou de, en tout cas de froideur, entre les deux types de populations que dans d'autres vallées qui n'ont pas connu cette phase minière. Parce que là, le renouvellement, il a été tel que finalement, ça s'est fait. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Ces nouvelles populations ont apporté des choses qu'on ne connaissait pas. Lorsque j'étais jeune, les activités culturelles, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait la pétanque, la chasse et le bistrot. C'était comme ça, c'était la culture, mais bon, pourquoi pas. Et maintenant, c'est d'une variété sans fin, quoi. Entre les théâtres, les jardins partagés, le cinéco, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, des festivals. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est un peu partout en France. Ce n'est pas propre à Nouvallée. Mais c'est chaque fois sous forme d'îlots, et dans les Cévennes particulièrement. Qu'on a de la chance pour ça, vraiment.
Mais c'est fort ce terme que vous employez de détoiter. Moi, c'est un terme que je n'avais jamais entendu. Ça veut dire que les gens qui partaient, ils étaient vraiment dans l'idée de brûler le passé. Ils ne voulaient pas revenir.
Ils avaient trop souffert. Oui. Et on ne se rend pas compte. Il y en a certains qui, au début, nous ont vraiment mis des bâtons dans les roues. Parce que, notamment, par exemple, une dame qui disait « Mais moi, je suis née ici. » Donc, elle revenait ramasser ses châtaignes alors qu'on était chez nous. Et elle disait, moi j'étais là avant vous, je suis née ici. Sauf que, il y avait une espèce d'amertume quelque part. Mais c'était tellement dur. Ils n'avaient pas l'eau, pas l'électricité, pas de chemin, pas de téléphone, rien, pas de véhicule. C'était dur. C'était dur. Alors moi, je l'ai connu ça.
Pendant l'eau et pas l'électricité.
Pas longtemps. Moi, j'ai vécu ça 5 ans.
Oui.
Mon compagnon, pendant 11 ans, lui, il n'a pas eu tout ce confort. Et donc, j'ai connu cette transition, effectivement, avec l'arrivée de l'électricité, l'arrivée de l'eau courante. Mais finalement, ça m'a permis de garder toujours cette notion de la valeur de l'eau. Et alors, l'eau, si vous saviez quand elle coule chaude directement, je me dis, mais c'est magnifique. Se rend plus compte.
Et oui. Ben, c'est vrai que pour notre territoire, en tout cas, ça a dû être des changements rapides et douloureux pour plusieurs personnes, certainement.
Oui. Et il y a également une autre transition qui se fait, c'est le monde paysan, l'agriculture, avec une idée du paysan qui était tout à fait négative. C'était quelque chose, c'est n'importe quoi. L'espoir, c'était que les enfants soient fonctionnaires et comme on disait, une situation. Mais revenir à la montagne, c'était inconcevable. Donc les gens ne comprenaient pas cette démarche. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de respect pour les petits agriculteurs. Moi, j'ai l'impression. Je les fréquente aussi. Beaucoup sont en agriculture bio parce que c'est un pays qui s'y prête. Et ça se passe plutôt bien au niveau sociétal. Il y a des groupements, ils font des choses ensemble, il y a de la solidarité. Le regard a totalement changé et ça s'est fait finalement rapidement. En 15 ans, il y a eu les lycées agricoles aussi, qui n'existaient pas spécialement sous cette forme-là. Avec un bac maintenant, etc. Il y a beaucoup de formations. C'est une vraie profession aujourd'hui.
Avant, moi j'ai appris sur le tas. Qui est hors de la sphère familiale.
Moi j'ai appris sur le tas comme on faisait avant. Tout ça sont des mutations.
Vous parlez aussi de l'arrivée des normes. où au début, vous aviez donc, la possibilité de faire votre fromage de chèvre un peu chez vous, quoi, comme ferait pour n'importe quelle activité familiale. Et puis petit à petit, les choses se sont normées. Il a fallu que ça devienne des labos.
Oui, oui.
Et que là, il y a une partie des gens qui ont pas...
Il y a beaucoup qui ont raté, au moment où, notamment, où il a fallu des véhicules réfrigérés pour aller au marché transporter ses fromages. Après, maintenant, c'est rentré dans les esprits. On aurait du mal à concevoir aujourd'hui quelqu'un qui, comme nous, transportait ses rouleaux de fromage dans une de chevaux, à côté d'autres produits. Voilà, donc pourquoi pas, mais bon, des fois c'est un peu exagéré à mon goût, mais bon.
Bah, c'est les transformations, c'est les transformations de la société, tout ce que ça a apporté, c'est toutes ces arrivées de normes nouvelles.
Après, c'est vrai que nous, dans les années 70, quand on arrivait sur le marché, on était je ne sais combien d'éleveurs de chèvres avec chacun notre petite table minuscule de fromage, donc si on en vendait 6, on était contents.
Oui.
Ça rapportait absolument rien. Et aujourd'hui, personne ne ferait ça.
Mmh. Ouais.
On était très nombreux. Il y avait beaucoup de concurrence. Mais il y a beaucoup qui sont repartis.
Oui.
Par contre, ceux qui sont restés, qui sont arrivés après 68 et qui sont restés, qui ont eu des enfants, aujourd'hui des petits-enfants, nous, à côté de chez nous, il y en a, tous les enfants se sont partagés, ils ont repris l'exploitation, les petits-enfants y sont aussi. Enfin, voilà, ça a fait souche.
Mmh.
Voilà. Alors que lorsqu'ils sont arrivés, on disait d'eux, ils ne tiendront pas 2 ans, ils n'y connaissent rien,
c'est les fadolis,
etc. Ouais, ouais. Et si, ils ont tenu.
Bon, ben bravo en tout cas,
oui.
pour ce chemin parcouru. Dans votre ouvrage, vous nous parlez aussi beaucoup de votre châtaigneraie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce...
Alors,
et sur l'incendie aussi, peut-être qui, du coup...
Oui, ça fait beaucoup de choses, peut-être.
Ouais,
alors, en fait, la châtaigneraie, elle était partout.
Oui.
Aujourd'hui, elle est moribonde parce qu'il y a les maladies. Nous, on a greffé pas mal d'arbres. On ramassait 3 tonnes à peu près par an.
Mmh.
Et on était dans l'équipe qui a fondé ce qui est devenu aujourd'hui Verfeuil.
Mmh.
On était dans la première équipe en 1980. On a commencé nos réunions. Pour mettre en commun nos récoltes et en faire un produit un petit peu haut de gamme. C'était un pâturage, c'est du bois de chauffage, enfin on le sait. Le châtaignier, c'est vraiment un arbre avec plein de récoltes possibles. Quand il y a eu l'incendie en 85, alors comme il y avait des pas maritimes qui commençaient à se mêler à la châtaigneraie, tout a brûlé.
Oui.
Donc ça a pas mal brûlé. Et du coup, voilà. Donc, toutes les montagnes ont brûlé autour de nous. Nous, on était au milieu. Et donc, je raconte cet épisode qui était vraiment très traumatisant. Encore là, une autre manière de voir les choses positivement, c'est qu'on a tout reboisé.
Oui.
Donc, mon compagnon et son frère, pendant 10 hivers consécutifs, ont planté à eux deux, avec un peu moi, de temps en temps, mais j'avais les enfants, de temps en temps, un copain qui venait, mais à deux, majoritairement, ils ont planté 45 000 arbres.
Oui.
Aujourd'hui, ça couvre des pans entiers de montagne, des essences différentes, en tout cas, pas tellement pour mon beau-frère, mais pour mon ex-compagnon. Avec des alternances de feuillus, des mosaïques d'essence pour se protéger d'un futur éventuel autre incendie que j'espère on ne verra pas. Donc aujourd'hui c'est une forêt qui a 35, 36 ans.
Une forêt jeune.
Une jeune forêt, mais enfin on peut circuler dessous. Il y a un sous-bois. On a un de nos fils qui a repris le troupeau, donc les choses se perpétuent. Il est bûcheron de métier, donc voilà, il gère aussi la forêt, la jeune forêt.
C'est lequel de vos fils?
C'est l'aîné,
dans le roman,
que j'appelle Tom.
On s'attache à vos enfants aussi.
Alors c'est Tom, aujourd'hui,
d'accord,
qui reprend le flambeau. Son père est à la retraite depuis 2 ans maintenant.
Bon.
Et puis comme c'est à 1 km de chez moi, je donne un coup de main de temps en temps.
Vous n'avez pas tout à fait lâché alors?
J'ai pas lâché, non seulement j'ai pas lâché, mais j'ai aussi inspiré, on va dire comme ça, un centre de formation sur les métiers de la laine.
D'accord.
Donc, je suis à fond dedans là, depuis 7 ans maintenant.
Pour et donc,
je suis en lien, voilà, je suis en lien avec les éleveurs de nos vallées. Et on organise donc tout un programme de formation. Hein. Mm-hmm. On a 12 intervenants au total. Et on collecte les toisons des brebis de nos vallées, des Hautes-Cévennes. Voilà. On ne dépasse pas 500 brebis parce qu'après, il faut écouler. Il faut transformer et écouler. Mais néanmoins, voilà, ça me permet de garder aussi un lien avec les éleveurs et de sentir l'odeur des bergeries, de toucher des moutons, voilà.
Vous êtes toujours,
les brebis.
Voilà, accro à, cet environnement-là,
vraiment,
en tout cas.
Oui. Bah, c'est ma vie. Ouais.
Bien sûr, j'entends. Peut-être qu'on peut du coup relire un extrait. Donc c'est l'épilogue, en fait, de votre récit. Et je ne peux m'empêcher de penser, quand vous parlez de cette forêt replantée, à l'homme qui plantait des arbres. Voilà, ils ont été les hommes qui ont planté des arbres. Oui. C'est fantastique d'avoir fait ça.
Alors, Giono, c'était une fiction.
Oui,
nous, c'est la réalité.
C'est ça.
Donc, je raconte un peu aussi, là, on a eu une partie d'accueil aussi. Hein. J'ai eu l'Égypte pendant 25 ans. Vous n'imaginez pas le nombre de gens, amis, qui nous ont offert ce bouquin, L'homme qui plantait des arbres.
Vous l'avez en 12 versions
À peu près, y compris en vidéo, enfin,
on
en
essaiera
film d'animation,
de vous le trouver en coréen, pour, donc, pour se départager un peu des
c'est
autres.
C'est un livre qui a marqué la famille.
Bon, alors je vais démarrer cette lecture et puis...
Moi je ferai le... Je lis ça ?
Oui, très bien, ouais, okay. C'est parfait. Il n'y avait pas de roman dans ses vies. Elle se tissait étroitement avec le destin de la terre et aucune ne se distinguait des autres. Pierre Magnan. J'aurais aimé vous dire, Pierre, mon admiration pour certains de vos livres, mais vous chicanez amicalement à propos de cette affirmation. Je vous aurais conté les romans innombrables que contenaient et contiennent encore toutes nos vies d'agricultrices, d'éleveuses ou de bergères. Des existences tricotées maille après maille au fil de l'évolution agricole et sociétale, cœur à l'endroit, cœur à l'envers, dans une époque qui suivait les Trente Glorieuses, où tout n'était que dissemblance, ruine, reconstruction, mutation, passion. Je vous aurais répété, mais vous le saviez bien, que les chèvres et les brebis ne sont pas que viande, lait, fromage, peau, fumure ou laine. Elles tissent aussi le destin de la terre et de sa biodiversité induite par le pâturage. Sur les monts délaissés par les vaches et les moutons, les genêts jaunes avancent inexorablement au-devant des forces de l'herbe qui finira par disparaître. Là où les troupeaux broutent les paysages, il y a des hommes et des femmes, des enfants, des orchidées sauvages, des pies grièges, des papillons, des alouettes. Un compagnonnage naturel, humain et animal, vieux de 10 000 années. Une éternité d'herbe.
Les glaces polaires refluent, fondantes sous la langue des étés d'outre-banquises. Les forêts sont devenues vulnérables, comme des couvées de perdreaux. La pauvreté et la misère ne sont pas qu'un souvenir. L'argent pleut toujours sur les mêmes champs lucratifs, les mêmes parcelles. Il génère sa propre boue et des déserts périphériques jusque dans le nid des oiseaux. Depuis quelques années, on entend moins chanter la fauvette grisette, on voit moins les martinets noirs monter jusqu'au bord des nuages le soir. Malgré tout cela, le printemps travaille à ses éternels accomplissements dans le champ un peu chiffonné des rouges queues autour de la maison. Dans l'été mature des sommets, de jeunes bergers ou bergères gardent à bâton planté en aspirant leurs bolets de vent. Dans les plaines, la brise flatte encore l'encolure des chevaux ou la croupe des vaches. Et à la marge du monde, comme dans les lisières et au bord des chemins, on retrouve, ici ou là, de bons fils de laine blanche pris dans les aubépines.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Et voilà, donc, toujours l'émission au cœur du livre. Nous allons nous dire au revoir, Brigitte Mathieu-Jaffuel. C'est ce récit attachant des 30 années de votre vie. Ça donne envie de vous revoir encore, peut-être avec d'autres ouvrages. Mm-hmm. Voilà, on restera à l'écoute de vos paritions et de votre voix à laquelle on s'est attaché, vraiment.
Merci pour votre accueil.
Merci à vous.